il revient pour chercher les disciples, les chrétiens, ses enfants. Sauf que ben, le monde, aujourd'hui, est complètement passé à côté de la plaque. Et pas seulement le monde, si ce n'était que le monde, je ne veux pas dire que ce n'est pas grave, parce que le monde ne connaît pas Jésus. Mais le problème, c'est que l'Église est affectée par ça. Regardez aujourd'hui combien de fois beaucoup de chrétiens sont séduits quand le Seigneur parle de séduction, sont séduits par les richesses, à la recherche des richesses. Combien de fois beaucoup de chrétiens sont séduits par les démons. C'est-à-dire que les démons les possèdent et les démons font en sorte que ces gens-là soient séduits par eux. Je m'explique. Vous savez, des chrétiens, toute leur vie chrétienne est centrée à chercher les démons qui les attaquent, plutôt que de chercher à avoir une relation avec Dieu. C'est une séduction. Et le diable a suscité des hommes pour faire passer cet évangile de la peur, qui est une autre séduction pour garder les enfants de Dieu dans la captivité. Un enfant de Dieu a besoin de connaître qui est son père et non de connaître qui est son ennemi. Si tu sais que ton père peut te protéger, même si tu habites dans un endroit où il y a des brigands, tu sais que peu importe les brigands qui habitent, ton père a la capacité de te protéger. Par contre, si tu es en train de chercher qui sont les brigands, quel est le brigand le plus fort, comment je peux faire pour l'attaquer, mais en réalité, tu ne reposes pas sur la force de ton père. Et c'est malheureusement ce que beaucoup de chrétiens font aujourd'hui parce qu'ils se sont laissés séduire par le diable. Et ils oublient aujourd'hui que le Seigneur revient. Quand on met la haine dans les cœurs des chrétiens pour leur dire qu'il faut tuer leurs ennemis, il faut lancer le feu aux ennemis, tuer la grand-mère qui est au village, tuer les sorciers qui sont au village, c'est la haine qu'on met dans leur cœur. Et en fait, ils sont séduits. Et ils ne se rendent pas compte qu'ils ont besoin de préparer leur cœur pour la venue du Seigneur. Vous voyez? Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit veiller à ne pas nous laisser séduire par ces choses-là. Et le Seigneur va plus loin. Je vais aller plus loin. On va aller au verset 30. « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Il rassemblera ses élus. » Vous voyez? Et on va voir comment ça va se passer devant. La Bible nous dit au verset 32, « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. » Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Donc, cette génération va voir le Seigneur, va voir le Seigneur certainement arriver, peut-être. Et Paul va dire que la nuit est avancée. La nuit est avancée. Si à l'époque de Paul, il disait que la nuit est avancée, nous aussi, à notre époque, nous pouvons dire que la nuit est très avancée. Et les signes bibliques qu'on n'aura pas le temps de décortiquer aujourd'hui nous permettent de comprendre que Jésus est à la porte et peut revenir même ce soir. Tellement de signes. Amen. Vous voulez dire quelque chose?
Si on peut continuer. Si on peut continuer, parce qu'à partir du verset 36, c'est vraiment...
OK. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Très bien. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Alléluia.
Amen.
Il viendra à l'heure où on n'y pensera pas.
Ah oui.
Oui. C'est chaud, hein?
C'est chaud, vraiment chaud.
Donc on a besoin de se préparer. voyez que en tant que chrétien, on a vraiment besoin de garder nos cœurs parce que le Seigneur peut arriver à tout moment. Et il y a tellement de circonstances pour qu'on puisse avoir un cœur qui soit tortueux, colérique. En fait, et le diable met toutes les circonstances autour de nous pour que nous puissions rater le ciel. Maintenant, nous, pour être sauvés, on a besoin d'appliquer la parole. Imaginez dans les couples, le nombre de couples qui dorment la nuit sans se parler. Parce qu'il y a eu des disputes. Alors, si Jésus arrive comme ça.
C'est effrayant. Hein?
C'est pourquoi la Bible dit de deux qui seront dans un lit, l'un sera pris
et l'autre,
sera laissé.
C'est fort.
Oui. Ouais. Pour ceux qui sont mariés, pour nous qui sommes mariés et pour ceux qui aspirent au mariage, le mariage est une bonne chose. Nous ne disons pas aux gens de ne pas se marier. Mais ça demande de connaître aussi quelles sont les implications. Et Paul va dire que je vous conseille, en fait, je paraphrase, hein, je vous conseille de ne pas vous marier pour vous éviter des tribulations dans la chair. Parce que dans le mariage, ben, y a des joies, mais il y a aussi des tribulations. Et donc, en fait, même le mariage qui est censé, comme la Bible dit, il vaut mieux se marier que de brûler, peut être la chose qui peut faire en sorte que tu ailles brûler en enfer. Tu ne vas pas brûler sur la terre par rapport au désir de la chair, mais tu peux aller brûler en enfer à cause du mariage. Parce que, pas à cause du mariage, parce que dans le mariage, tu as vécu quelque chose que tu n'as pas su gérer. C'est plutôt dire comme ça. Parce que le problème, ce n'est pas le mariage, c'est la personne qui a vécu la chose qui n'a pas su gérer. Et donc, la Bible nous dit ici que deux qui seront dans un lit, l'autre sera pris et l'autre laissé. Et donc, il faut s'apprêter. Jésus revient. On a besoin de s'apprêter. On a besoin de s'apprêter. Les injustices, on peut subir des injustices. On peut être calomnié. Si on ne garde pas son cœur, ben quand Jésus reviendra, ben on ne partira pas. Et on va le voir. Est-ce que vous voulez dire quelque chose?
J'ai une préoccupation.
Mm-hmm.
Ou du moins, c'est une question. Matthieu 24, verset 40. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Lorsque le Seigneur a expliqué la parabole du champ, de l'ivraie et du bon grain, il disait le champ, c'est le monde.
Ouais.
Et si on dit deux hommes qui seront dans un champ, est-ce qu'on parle de deux chrétiens, par exemple, qui seront dans le monde? Et si on est dans un champ, c'est soit pour semer, soit pour récolter, soit pour ramasser.
D'accord.
Est-ce que ça veut dire que de deux chrétiens qui seront, par exemple, dans le monde en train de prêcher, évangéliser, il se peut qu'il y ait un qui soit pris et l'autre qui soit laissé?
Bien sûr. Un peut être pris, l'autre peut rester. D'abord, le sens littéraire, le champ, c'est vraiment le champ d'abord, parce qu'il y a toujours l'aspect littéraire et ensuite, il y a l'aspect allégorique. D'accord, l'allégorique, c'est l'image. L'image, en fait, de ce que le champ renvoie sur le sens spirituel. Et donc là, on est dans la parabole de Matthieu 13, justement, pardon, la parabole du sémeur. Et donc, on comprend que derrière ça aussi, il y a le champ missionnaire, où on peut avoir deux personnes qui sont sur le champ missionnaire. Mais parmi les deux personnes, il y a une qui s'est déjà détournée. La Bible nous parle, par exemple, de Démas. Paul dit « Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent ». Vous savez, quand Démas quitte Paul par amour pour le siècle présent, ce n'est pas le jour où il quitte Paul que son cœur s'est attaché au siècle présent. Pendant qu'il faisait la mission, parce que Paul, dans le livre de Colossiens, à la fin, au chapitre 4, salue l'Église et il dit que Démas, mon compagnon d'œuvre, vous salue. Donc, Démas était un compagnon d'œuvre de Paul. Sauf que, comme la Bible nous enseigne dans le livre de Jacques, par rapport au processus de la séduction, Démas avait déjà été séduit avant. Jusque la manifestation du péché est venue après. C'est pourquoi la Bible nous dit le péché de certains hommes est manifeste. Pour d'autres, il ne se découvre, il ne se révèle qu'avec le temps.
Aïe.
Vous voyez? Donc, en fait, vous pouvez être sur le champ missionnaire, mais il n'y a que Dieu qui connaît le cœur des gens.
Oh.
C'est pourquoi la Bible nous dit, d'accord, que... alors, j'ai perdu le passage qui me venait, ça me reviendra. Voilà, Matthieu 7, la Bible nous dit que ce n'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur, qui font la volonté de Dieu. Beaucoup diront en ces temps, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Il leur dira, arrière de moi, je ne vous ai jamais
connu.
Jamais. Jamais, c'est grave. C'est-à-dire qu'eux, ce n'est pas des chrétiens qui se sont refroidis. Il ne les a jamais connus comme étant ses brebis. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens avec qui on peut marcher qui sont dans les églises, que nous appelons frères, mais qui n'ont jamais été connus du Seigneur. C'est-à-dire que nous, on les appelle frères parce que nous ne connaissons pas le cœur, mais pour le Seigneur, quand il voit que nous, on appelle frères, il se dit, mon enfant ne connaît pas qui est cette personne. Et donc, s'il y a une personne comme ça, par exemple, cette première catégorie de personnes, elle ne sera pas sauvée. Si c'est un chrétien qui s'est détourné et qui ne s'est pas repenti de ses péchés, ben, il restera. Donc c'est vraiment sensible, l'enlèvement de l'Église, le retour du Seigneur. C'est vraiment quelque chose qu'il faut préparer.
Ah, il faut vraiment crier ça. Oh. Il faut vraiment lancer l'alerte. Parce que comme ça, ce n'est pas facile. Hein. Si déjà avec avec toutes ces séductions, avec la pression que nous avons dans les couples, le boulot et tout ça, là, forcément, il y a des cœurs forcément, qui sont touchés. Mais il y a des gens qui n'arrivent pas à rejeter toutes ces choses. Et imagine-toi, quelqu'un vient, il est dans l'ignorance, il va partir comme ça. Donc, il faut vraiment crier pour que le maximum écoute vraiment l'évangile. Vraiment, il faut vraiment crier par rapport à la séduction.
Ouais. Et nous-mêmes aussi qui prêchons l'évangile, on doit veiller.
Amen.
Parce que je vous dis, c'est compliqué. Amen. C'est ce que Paul dit. Il dit qu'il veille, il traite durement son corps de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Vous voyez comment c'est le salut, Jésus a tout payé à la croix. Le salut est disponible. Mais il y a des choses que nous devons faire. C'est pourquoi l'évangile qui consiste à dire que sauver une fois, sauver pour toujours, on peut vivre dans le péché, la grâce de Dieu est disponible, vous comprenez que ça n'a rien à voir avec l'évangile de Jésus-Christ. Sinon, pourquoi on devrait se préparer? Pourquoi de deux qui seront dans un lit, l'un sera pris, l'autre restera? Pourquoi? Pourquoi de deux qui seront dans un champ? Pourquoi de deux qui seront en train de moudre, deux femmes? Pourquoi l'une sera prise, l'autre restera? Parce qu'il y a un tri qui va s'effectuer. On a dans la parabole de Matthieu 13, la Bible dit qu'il arrachera le blé, il le mettra dans son grenier et il arrachera l'ivraie pour le mettre au feu. Donc il y aura un tri. Pourtant, les deux étaient dans le même champ.
Ils vont grandir ensemble.
Et ils vont grandir ensemble. Et dans l'église, il y a le blé et il y a l'ivraie.
Amen.
Vous voyez? Donc il faut se préparer, frères et sœurs. Il faut qu'on se prépare. Jésus revient. C'est une réalité. Et nous devons craindre Dieu, nous devons aimer Dieu, nous devons rechercher la vérité de la parole. Tous les jours, nous devons rechercher Dieu. Aimer Dieu plus qu'autre chose. Nous devons aimer Dieu. Ce n'est pas facile, nous devons aimer Dieu, aimer le Seigneur. Nous devons aimer Dieu. Ce n'est pas facile.
Moi, par exemple, quand j'écoute ça, j'ai l'impression qu'il y a une épée Damoclès qui est pointée sur ma tête. C'est vraiment interpellant. La séduction est assez profonde.
Oui,
vraiment.
Oui, donc, on va continuer. On va prendre 1 Corinthiens chapitre 15. Alors, 1 Corinthiens chapitre 15. Je vais lire d'abord à partir du verset 1er et je vais sauter pour aller plus loin après. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé autrement, vous auriez cru en vain. Donc, on peut croire en vain. Si on a écouté le mauvais évangile, on a cru en Jésus, on a cru en vain, pour rien.
Toute une vie. Donc, on aura la foi, mais une foi, c'est une mauvaise chose.
Ben oui, bien sûr.
La vanité.
Si tu as la foi à une mauvaise chose, à un mauvais évangile, et Paul le dit, et il va plus loin maintenant, il explique. Verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, pas pour nous bénir, pour nos péchés. Selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Cephas, puis aux 12, ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. C'est Paul qui parle ici, hein, c'est pas moi, il est apparu à Paul. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, Paul, que ce soit eux, les Pierre, les Jean, les Jacques et tout le reste, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Et c'est ce que vous avez cru. Donc, premièrement, pour attendre le retour du Seigneur, on ne peut pas l'attendre si on a une mauvaise espérance. Il y a des gens qui ont une espérance sur la terre. Et on va le voir plus loin.
Wow.
Il y a des gens qui ont une espérance sur les visas. Vous vous rendez compte qu'il y a des pays où les gens aiment tellement immigrer. Au Gabon, il n'y a pas trop ce phénomène. Mais il y a des pays où les gens vont à l'église, font les offrandes pour... Ils font là leur prière, c'est d'avoir un visa. Voilà, en France, aux États-Unis, en Allemagne, un visa, en Belgique. Il y a des pays pour avoir le visa, les gens prient, les gens font les offrandes pour avoir le visa. Vous vous rendez compte? Ils ont la foi en quoi? Verset 12. Paul dit maintenant, il explique quelque chose. Il dit, « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Et s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Vous voyez? Et si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Seulement dans cette vie, dans les choses de cette vie, dans d'autres versions, alors je vais regarder d'autres versions. Qu'est-ce que ça dit? Dans la version Nouvelle Bible Second, si c'est pour cette vie seulement que nous avons mis notre espérance dans le Christ, nous sommes les plus pitoyables de tous.
Pire qu'un païen.
Dans la King James, si c'est dans cette vie seulement que nous avons espérance en Christ, nous sommes de tous les hommes les plus misérables.
Oh.
Dans la Martin, si nous n'avons d'espérance en Christ que pour cette vie seulement, nous sommes les plus misérables de tous les hommes. Donc, un chrétien qui n'a d'espérance envers Jésus que pour les choses de la terre, il est parmi les hommes les plus misérables de la terre. Il est parmi les hommes les plus misérables. Et le Seigneur l'appelle à reconsidérer sa position et à se souvenir que on accepte Christ pour ressusciter avec lui. Et vous voyez que la qualité de l'évangile qu'on va écouter va nous préparer au retour du Seigneur. Et à cette époque, il y avait des chrétiens, il y avait des gens qui avaient accepté le Seigneur, qui disaient qu'il n'y a pas de résurrection de mort.
Wow. Wow. Wow, wow.
Et donc, en fait, si on n'a pas d'espérance de la résurrection des morts, comment on fait pour se préparer? Parce qu'on va tous mourir à revenir à la vie. On n'a pas besoin, puisqu'on se dit, on vit une fois, comme la Bible dit, dans l'interpellation, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Et ça revient à ce proverbe, enfin, cette phrase qu'on aime dire dans le monde, on ne vit qu'une fois.
Il est réservé à l'homme de vivre et de mourir une seule fois.
Oui, donc en fait, Jésus revient. Maintenant, Paul nous explique plus loin, au verset 50. Toujours du même chapitre, donc on est au chapitre 15. Alors, vous pouvez nous appeler. Vous pouvez nous appeler, je vais passer l'annonce comme ça pendant qu'on cherche le passage.
Pour poser vos questions, vous pouvez nous appeler au 074 23 17 29 et nous nous ferons le plaisir de vous répondre.
Donc voilà, si vous voulez nous appeler, vous pouvez...
Pour poser vos questions, vous pouvez nous appeler au 074 23 17 29 et nous nous ferons le plaisir de vous répondre.
Donc voilà, si vous voulez participer à l'émission, vous voulez appeler pour poser une question, vous avez le numéro vous pouvez nous appeler et on vous prendra en direct pendant que nous sommes sur le plateau. Alors, on est au verset 50. Nous parlons du retour du Seigneur. Au verset 50, il est écrit « Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. La chair et le sang, la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. » La chair, c'est quoi? On sait les œuvres de la chair. Galates 5. Or, les œuvres de la chair, ce sont l'impudicité,
l'impureté,
la dissolution, les mauvais désirs, la sorcellerie, l'ivrognerie, les envies, les excès de table,
les sectes,
les choses semblables, la sorcellerie, toutes ces choses. Au verset 51, Paul dit, « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous, nous serons changés. » En un clin d'œil, frères et sœurs.
Mmh.
Un clin d'œil, ça fait combien de secondes? Même pas une seconde.
Oh, ça.
Ça veut dire que depuis qu'on est en train de parler là, si Jésus devait venir et partir, il serait peut-être venu et parti plus de 1000 fois depuis qu'on a commencé l'émission. Parce que c'est chaque seconde. Les clins d'œil qu'on a fait depuis qu'on est assis là, on en a fait plusieurs. En un clin d'œil. Frères et sœurs, vous imaginez un chrétien qui va dire « Non, je m'en vais d'abord tomber dans l'impudicité, dans l'adultère, et je vais demander pardon à Dieu. » Mais pendant qu'il est en train de partir, je ne parle même pas qu'il allait faire, pendant qu'il est en train de partir, si Jésus revient...
Avec la pensée là,
il reste.
Oh, l'évangile!
La Bible dit « Quiconque regarde une femme pour la convoiter, tu as juste convoité. » Elle dit, tu n'as pas déjà décidé de passer à l'acte. Tu as juste convoité. Il dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter dans son cœur a déjà commis l'adultère avec elle. Donc, imaginez maintenant quelqu'un qui est en train de partir. Il a déjà tout organisé, il a déjà pris rendez-vous ou bien il a déjà pris rendez-vous. Il est déjà dans l'adultère ou dans l'impudicité. Oui. Donc, pendant que le Seigneur revient, s'il ne s'est pas repenti de cette pensée, il reste. Pendant que vous êtes en train de prêcher l'évangile, lui, il est en train de penser que quand vous finissez de prêcher l'évangile, lui, il va aller tomber dans le péché sexuel. Il va aller tomber dans l'escroquerie. Il va aller tomber dans les bagarres, dans le mensonge. Il va aller pratiquer le mensonge. Il va aller mentir. Il est en train de réfléchir comment il va aller mentir à quelqu'un en tant qu'enfant de Dieu. On ne parle pas de quelqu'un qui se surprend en train de mentir parce qu'il a peut-être eu la pression. C'est-à-dire qu'il est en train de méditer le mensonge. Jésus revient, il reste. Alléluia.
Amen.
C'est
Amen.
Terrible.
Amen.
Et la Bible nous dit que ce sera en un clin d'œil, à la dernière trompette, en un clin d'œil, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc ceux qui sont morts avec cette espérance, et nous qui sommes encore vivants, c'est-à-dire si quelqu'un écoute encore la radio là, et qu'il est vivant, la Bible nous dit, nous serons transformés. Ça veut dire qu'après l'enlèvement de l'Église, les chrétiens qui resteront, ils n'auront pas été pris. Même leurs parents sauront qu'il y avait un problème dans leur vie chrétienne.
Oui.
Les gens à qui ils ont prêché l'évangile sauront qu'il y avait un problème dans leur vie chrétienne. Parce qu'il y aura tellement de disparitions dans le monde que le monde entier saura que les chrétiens sont partis.
Donc vous qui restez là.
On est pareil.
Ceux qui resteront, moi je ne resterai pas au nom de Jésus.
Amen.
Je veux partir. Vous partez aussi, non?
On part. Si c'est l'évangile, là, c'est le moment.
Si c'est l'évangile, on part.
Voilà, il faut se battre. Nous devons tous combattre le bon combat de la foi pour retrouver, aller à la rencontre de notre Seigneur. Vous voyez, donc la Bible me dit que c'est en un clin d'œil. Mais regardez la beauté de la chose. La Bible nous dit que nous serons tous changés. Car, verset 53, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Et que ce corps mortel que nous avons revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. La mort va être engloutie. Il n'y aura plus la mort. Et nous, qui partirons à la rencontre du Seigneur, nous ne connaîtrons pas la seconde mort dont la Bible parle dans Apocalypse 20. La seconde mort, les gens qui seront jetés dans l'étang ardent de feu, qui est différent de de l'enfer. Parce qu'il y a l'enfer dans lequel les gens vont après leur mort, ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur. Mais ces gens-là, la mort va rendre les morts et ils vont être jetés dans l'étang ardent de feu après le jugement. Ce jugement, ce sera pour définir le degré en fait, de punition. Voilà. Mais en fait, ils seront déjà condamnés parce que leur nom ne sera pas trouvé dans le livre de vie.
Pour poser vos questions, vous pouvez nous appeler au 074 23 17 29 et nous nous ferons le plaisir de vous répondre.
Donc voilà. Vous voulez dire quelque chose ?
Ah oui, tout c'est l'évangile, c'est comme le verset, le chapitre le dit. Tout c'est l'évangile. Dis quoi ? Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé. Dis quoi ? Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous persévérez. Moi, je dis que tout, c'est l'évangile. Si l'Église est enseignée et si l'Église met l'évangile en pratique, je pense que tout va se passer, tout va bien se passer. Tout, c'est l'évangile. Il faut vraiment que l'Église soit enseignée de la parole de Dieu.
Voilà. Et l'interpellation revient même plus haut encore. Quel évangile avez-vous entendu, avez-vous reçu ? Verset 3, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures.
Mm. »
Donc c'est sur ça, en fait, qu'on doit bâtir notre foi, si c'est la foi qui sauve.
C'est ça.
Notre foi doit être bâtie sur cet évangile-là, la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Or, si on a foi en autre chose que ça, on peut déjà douter de l'évangile qu'on a reçu.
C'est ça. Donc, on passe à côté.
On
va prendre un autre passage dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. À partir du premier verset, je fais la lecture. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus-Christ de marcher à cet égard de progrès en progrès. De progrès en progrès. Ça veut dire que dans la vie chrétienne, on grandit. Mmh. On doit grandir.
Donc, ce n'est pas de progrès en tombant ou en baissant,
non,
mais
non,
de
non.
Progrès en progrès.
De progrès en progrès. On ne doit pas régresser, on doit grandir. On ne doit pas diminuer, on doit grandir. Vous savez, en effet, quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur ? Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son esprit. Alléluia.
Amen.
Vous se préparez. Verset 9. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous savez vous-même, vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille et à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé. On va aller plus loin. Verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. En Jésus, bien sûr. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés, pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ce sont des paroles de consolation.
La résurrection.
Parce que sur la terre, il y a tellement de choses qui nous manquent. Vous savez, les gens pensent que l'argent comble tout. Il y a des gens qui ont l'argent, ils n'ont pas de famille. Ils n'ont pas l'amour d'une famille. Il y a des gens qui ont l'argent. En fait, ils se rendent compte que la plupart des gens qui tournent autour d'eux ne sont là que pour leur argent en réalité. En fait, ils n'ont pas de vrais amis. Est-ce que vous vous rendez compte? Il y a des gens qui cherchent l'argent. Il y a des gens qui ont l'argent qui n'ont pas d'enfants. C'est-à-dire qu'il a travaillé, mais il ne sait pas à qui il va laisser son argent. Donc, dans la vie, il y a des choses qui manquent à tout le monde. Et la chose qui manque à tout le monde, premièrement, c'est le Seigneur. Tout le monde a besoin du Seigneur.
Amen.
Amen.
Tout le monde. Les hommes riches ont besoin du Seigneur. L'homme pauvre a besoin du Seigneur. Donc, il y a personne qui peut dire qu'il a tout ce qu'il veut. C'est faux. Personne. Et le Seigneur nous dit, nous, en tant que ses enfants, c'est une consolation pour nous, cette espérance que on doit se consoler avec le fait que Jésus reviendra nous chercher. C'est la seule chose. Et c'est la plus belle des choses. C'est la plus belle des choses. Et c'est pour aller où? Ben, la Bible nous dit dans l'Apocalypse, on va voir où on va aller. Est-ce que c'est pas beau d'aller là où on est censé aller? C'est très beau.
Très beau. Très beau.
Et on est à Apocalypse chapitre 21. Premier verset. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Et j'ai vu descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. La nouvelle Jérusalem, pardon, je me suis perdu. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » Vous vous rendez compte? On sera avec Dieu. Ici, là, sur la terre, on voit déjà Dieu vit en nous. On voit déjà le changement qu'il y a eu avant Christ et après Christ. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. On a vu le changement. Mais là, ce ne sera plus simplement l'Esprit en nous. Il sera lui-même avec nous. C'est un peu comme si on dit, bon, le président de la République a décidé chaque mois de t'envoyer quelque chose. Et puis il dit, bon, finalement, au lieu de t'envoyer quelque chose chaque fin du mois, tu vas directement venir habiter avec moi. Partout où je vais, tu partiras avec moi.
Tout ce qui est à moi est à toi.
Vous voyez un peu la différence. Ça change, hein? Verset 4. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus, comme on a lu dans 1 Corinthiens 15, 5, à partir du verset 51. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'état ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Puis un ange, un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies de sept derniers fléaux, vint et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et il me montra la ville sainte, Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu et en la gloire de Dieu. Et vous pourrez lire plus loin pour voir comment la nouvelle Jérusalem se composait. Elle était belle, de pierre, l'or, l'émeraude, les pierres de jaspe et tout le reste. Mais vous savez, comme je dis souvent, et comme la Bible dit, je ne fais que dire ce que la Bible dit, la différence entre l'enfer et la nouvelle Jérusalem, c'est l'absence de Dieu. D'un côté, vous avez Dieu. C'est-à-dire que même si on dit que l'enfer, d'accord, c'est la nouvelle Jérusalem, mais comme il n'y aura pas Dieu là-bas, ce sera terrible. Même si Dieu enlève le feu, là où il n'y a pas Dieu, c'est compliqué.
C'est compliqué, oui. C'est les ténèbres.
Voilà. Vous imaginez un endroit où il n'y a pas Dieu. La terre est comme ça parce que Dieu étend encore sa main. Le jour où Dieu n'étend plus sa main sur la terre, c'est compliqué. Donc, mais l'enfer, même si les enfants de Dieu vont dans le feu, mais tant qu'ils sont dans le feu avec Dieu, il n'y a pas de souci. Donc, c'est ça notre espérance, que Jésus revient. On doit se préparer. Et on se prépare, on a vu, c'est pour être avec lui à la Nouvelle Jérusalem. Vous voyez les frères?
Oui. Amen.
Des questions? Ou des interventions? Si vous n'en avez pas aussi, c'est pas grave. Hein?
En fait, c'est un peu compliqué. Parce que nous-mêmes, en fait, on est interpellés. Tu vois? Comment l'évangile véritable, on dit c'est une épée à double tranchant. Donc à la fois, ça interpelle la personne à qui tu parles, mais à la fois toi-même aussi, tu es interpellé. C'est comme un signal d'alerte.
Vraiment, il faut que l'évangile pique comme ça. Parce que quand la personne écoute, sent qu'elle est là, c'est rentré.
Comme l'apôtre Paul.
Ah, nous avons un appel. Oui, allô?
Allô.
Bonjour.
Bonsoir.
Bonsoir.
C'est la sœur Sylvain.
Ah, la sœur Sylvain.
J'avais une question.
Oui, on t'écoute.
Par rapport à la foi, à la marche chrétienne. Parce que souvent, en tant que chrétien, on se dit que nous sommes sauvés parce que peut-être on marche selon la volonté du Seigneur, peut-être parce qu'on ne ment plus, on ne vit plus dans la fornication. En tout cas, on a abandonné le péché. Mais quelque part, parfois, on a cette peur-là qu'il y a quelque chose qui peut être en nous et qu'on ne se rend pas parfois forcément compte et que les autres peuvent ne pas voir aussi. Maintenant, ma question était de savoir comment est-ce qu'un chrétien peut faire pour se rendre compte que là, il a dévié, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que peut-être il n'est plus dans la course. Voilà. Je voulais un peu savoir si un chrétien peut se rendre compte qu'il n'est vraiment plus dans la marche avec le Seigneur.
D'accord. Très bonne question. On va y répondre. C'est bon, tu peux raccrocher. Alors, donc, la question, c'est de savoir est-ce qu'un chrétien peut se rendre compte qu'il a il s'est détourné du Seigneur. Oui, un chrétien peut se rendre compte. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que Dieu nous a donné son Esprit Saint. Et donc, le rôle de l'Esprit Saint, la Bible nous dit, c'est pour nous conduire aussi dans toute la vérité. C'est de nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Donc, tant que le chrétien est en relation avec l'Esprit Saint, l'Esprit Saint va l'interpeller de plusieurs manières possibles. Dieu ne va pas t'interpeller une fois. Il va t'interpeller à plusieurs reprises. Dans des songes, dans ton cœur, tu peux ressentir des choses. Parce que la Bible nous dit dans Job, je crois 33, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme n'y prend point garde. Donc, l'homme parle, Dieu parle. Mais maintenant, c'est est-ce que nous percevons la voix de Dieu quand Dieu nous parle? Mais Dieu nous parle. Il peut nous parler dans les songes, par une prédication, comme là nous sommes en train de parler. Dieu peut nous parler par un frère, par une sœur. Dieu peut même nous parler par quelqu'un qui n'est pas converti. Dieu peut même nous parler par un animal, comme il l'a fait avec Balaam. Vous voyez? La question, c'est est-ce que nous sommes prêts à écouter la voix de Dieu? C'est ça la difficulté. Maintenant, il y a une chose qui est importante. La Bible nous dit que Dieu pardonne les temps d'ignorance. Ça veut dire quoi? Qu'il y a des choses qu'un chrétien peut faire qui ne sont pas évidentes dans la Bible, mais que Dieu peut permettre pendant un temps. Je vais peut-être m'expliquer. Après, là, je ne sais pas s'il faut dire c'est un péché. Ouais. Mais plus que le péché, c'est quoi? C'est la désobéissance à la volonté de Dieu. Parce que nous, on caractérise souvent le péché par rapport aux choses qui sont listées dans la Bible, l'impudicité et tout le reste, le mensonge, le vol. Mais en fait, le péché, la définition du péché, c'est la désobéissance à Dieu. Donc, à supposer qu'un chrétien, Dieu veuille qu'il se détache de la télé. Vous voyez? Et qu'il est encore attaché à la télé, alors que Dieu lui a demandé de se détacher. Ben, il pêche.
Oui.
Il pêche. La question, c'est, est-ce que si Dieu, quand Jésus reviendra, est-ce qu'il partira? Ben, s'il est dans le péché, ben, il n'est pas censé partir.
Oui.
Donc, Dieu interpelle. Toujours Dieu interpelle. Et à chaque fois que cette personne se mettra devant la télé, Dieu mettra toujours une pensée dans son cœur. À un moment, il va se dire, ah, est-ce que... Et puis, après, il va faire un raisonnement pour se dire, mais est-ce que Dieu est contre? Donc, Dieu parle toujours. Dieu parle toujours. Et si vous vous rendez compte, quand vous discutez avec des chrétiens qui ont connu la chute, par exemple, qui ont chuté en général dans, par exemple, le péché sexuel, parce que c'est souvent l'un des péchés qui embête beaucoup les chrétiens, qui embête l'humanité, ou dans l'escroquerie, par exemple, vous allez vous rendre compte que la personne va vous dire, en fait, dans mon cœur, je savais que Dieu ne voulait pas que je fasse ça. Je sentais. La personne va te dire, je savais ou je sentais que Dieu ne voulait pas que je fasse la chose. Et la personne va finalement le faire. Et en fait, ce qui fait en sorte que la personne le fasse, c'est la séduction. Quand la personne est séduite. Mais Dieu parle toujours. Dieu parle toujours, toujours, toujours. Alors, comment faire pour ne pas tomber dans cette séduction-là? Ben, il faut lire sa Bible. Il faut lire sa Bible. Il faut prier. Il faut jeûner, il faut rechercher la volonté de Dieu. Et il faut toujours aller humblement devant Dieu pour dire, Seigneur, est-ce que je te suis encore agréable?
Amen, amen, amen.
Seigneur, qu'est-ce qui ne me plaît pas qu'est-ce qui ne te plaît pas dans ma vie? Vous savez, beaucoup de temps, quand on va dans la prière en tant qu'enfant de Dieu, on va souvent pour demander les choses qui nous concernent, les choses, ce qui peut nous satisfaire notre chair. Seigneur, l'argent. Seigneur, paye le loyer. Ce qui n'est pas mauvais, on doit payer le loyer. Si à la fin du mois, si on loue, il faut bien payer la maison. Payer l'école des enfants. Je ne dis pas qu'on ne doit pas prier pour ça. Mais la Bible nous dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Donc, la priorité dans la prière, c'est d'abord notre âme. Notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre
comme au
ciel. Et à la suite, donne-nous aujourd'hui notre pain
quotidien.
Ça vient après, hein, dans le modèle de prière que Jésus a donné. Oui. Et quand on entretient en fait cette flamme-là pour dire au Seigneur, montre-moi, et Dieu va te montrer. Quand on a ce caractère d'humilité. Et l'autre chose qui manque, c'est que de plus en plus des chrétiens n'ont pas de communion fraternelle. Parce que la communion fraternelle, dans la communion fraternelle, Dieu peut permettre aussi que beaucoup de choses que tu as, tu les perdes parce que tu vas te rendre compte que y a des choses, d'autres vont témoigner par exemple qu'ils avaient tel caractère, Dieu les a changés, qu'ils étaient dans tel péché, Dieu les a libérés. Mais aussi, tu vas voir des modèles chez les autres, par exemple dans les couples. On peut penser que ce qu'on fait dans son couple est bon, mais quand on discute avec d'autres couples, on va se rendre compte que notre modèle n'est pas forcément le meilleur. Et on va adopter quelque chose qui est meilleur pour changer. Vous voyez, donc la communion fraternelle aussi permet de pouvoir ne pas tomber dans ces pièges-là. Vous voyez, c'est vraiment ça. Donc vous pouvez nous appeler.
Pour poser vos questions, vous pouvez nous appeler au 074 23 17 29 et nous nous ferons le plaisir de vous répondre.
Donc voilà. Alex, tu voulais dire quelque chose?
Oui, pour appuyer encore. La Bible dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul nous exhorte à nous examiner nous-mêmes. Et une méthode d'examination que le Seigneur nous a donnée, c'est au travers de l'amour de Dieu que nous ressentons. Est-ce que dans nos cœurs, nous avons encore l'amour pour les choses du Seigneur? Ça, c'est une façon de s'examiner pour savoir si nous sommes encore en accord avec le Seigneur. Est-ce qu'on a encore l'amour pour la prière, l'amour pour le jeûne, l'amour pour la lecture de la parole, la méditation? Est-ce qu'on a encore l'amour pour les frères et sœurs? Parce que la Bible dit c'est au travers de l'amour fraternel, de la communion que vous aurez entre frères, que le monde saura que vous êtes enfant de Dieu, disciple de Dieu. Donc, c'est en s'examinant par rapport à l'amour aussi qu'on ressent, par rapport aux choses, à l'œuvre de Dieu, à l'avancement du royaume. Mais est-ce que lorsqu'on voit encore un homme à donner dans un péché qui est proche de nous, est-ce que ça nous dérange ou on est indifférent? Est-ce que lorsqu'on voit, par exemple, des malades ou des orphelins ou des veuves, est-ce que le cœur est encore un peu piqué? Est-ce qu'on est encore un peu compatissant? Ou est-ce qu'on est totalement indifférent face à la situation du péché dans le monde? Les situations de guerre ou l'état d'Israël ou plusieurs autres choses, est-ce qu'on est interpellé? Aussi longtemps qu'on demeure indifférent, c'est déjà une interpellation. Est-ce qu'il y a encore vraiment, si on peut le dire pleinement, l'amour de Dieu en nous? C'est ce que je voulais ajouter.
Non, mais merci, c'est vraiment, je bénis le Seigneur, c'est un bon point. Donc, quand on perd l'amour pour les choses de Dieu, c'est vraiment, c'est l'un des signes. On n'a plus d'intérêt pour la prière, on n'a plus d'intérêt pour le jeûne, on n'a plus d'intérêt pour la lecture de la parole de Dieu, on n'a plus d'intérêt d'être avec les enfants de Dieu. Ça ne nous dérange plus d'être dans les endroits où on parle des choses qui souillent l'âme, qui souillent l'esprit, qui souillent les oreilles, qui souillent les yeux. C'est une interpellation. Vous voyez? C'est vraiment une interpellation. La Bible nous dit dans Romains 8, au verset 16, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » L'Esprit ici, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ici rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et donc, voilà, le Seigneur rend témoignage à notre esprit et l'homme sait quand c'est bon avec le Seigneur. Amen. Il sait aussi quand ce n'est pas bon.
Amen.
L'homme a une conscience. Alléluia.
Amen. Amen.
Donc, voilà, un mot de fin à chacun et puis on va s'arrêter par là.
Bah, moi, personnellement, je bénis énormément le Seigneur parce que je me sens profondément interpellé par la parole. Et c'est une très bonne chose. Merci, Seigneur. Et j'aimerais rendre grâce au Seigneur pour l'initiative de cette émission et surtout pour le thème du jour. Qui sait ce que ça m'évite comme bobo à l'avenir. Vraiment, merci. Que le Seigneur soit glorifié pour ça. Et j'ose espérer que ça a vraiment aussi édifié plusieurs de nos auditeurs. Parce que nous, vraiment, nous sommes édifiés premièrement d'abord à nous qui avons partagé cette parole. Et j'espère que mes frères aussi sur le plateau ont été édifiés.
Bien sûr.
Je remercie le Seigneur pour ce partage. Il est très, vraiment très touchant. Et je prie que, que tout ce qui a été dit, vraiment, ça apporte des fruits dans nos cœurs. Et que le Seigneur nous fait grâce de vraiment s'appliquer à l'Évangile. Parce que nous avons compris que petite désobéissance, c'est la mort. Donc, j'encourage les frères, j'encourage les sœurs, j'encourage à toutes les personnes qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus comme Sauveur et Seigneur, de donner leur vie au Seigneur, parce que la vie après ici, après la vie après la mort sur terre, c'est vraiment dangereux. Donc, j'interpelle tous les frères qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur d'accepter le Seigneur. Merci. Que Dieu vous bénisse.
Ok, gloire à Dieu. Donc, on va s'arrêter par là. Donc, pour ceux qui souhaitent nous contacter, vous pouvez nous contacter au 074 23 17 29. Au 074 23 17 29. Voilà, même après l'émission, si vous avez besoin de pouvoir échanger, vous avez besoin de la prière, vous avez besoin de partager, vous avez besoin de conseils de la part du Seigneur. Voilà, nous sommes disponibles, nous sommes ouverts. Vous pouvez appeler à ce numéro. Voilà, la prière est gratuite. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc, que le Seigneur vous garde dans vos maisons, que le Seigneur vous protège et que nous puissions tous ensemble, en tant qu'enfants de Dieu, nous préparer au retour de notre Maître.
Maranatha.
Voilà, donc soyez bénis et que Dieu vous garde. Et à très bientôt pour une prochaine émission.